Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et à tous. C'est une chronique introductive que je vous propose aujourd'hui. Introductive à une série de chroniques qui auront pour titre « Divertir pour dominer la culture de masse contre les peuples ». Donc chronique que je vais vous proposer dans les prochaines semaines. Et donc, c'est de culture qui sera question. Mais je voudrais commencer cette chronique par une anecdote. Nous sommes en septembre 1995 à San Francisco. Sous l'égide de la Fondation Gorbatchev sont réunis 500 hommes politiques, leaders économiques et scientifiques de premier plan, constituant à leurs propres yeux l'élite du monde. Leur objectif ? Confronter leur vue sur le destin de la nouvelle civilisation, celle du XXIe siècle qui approche. Cette assemblée commença à reconnaître que, dans le siècle à venir, 2/10 de la population active suffirait à maintenir l'activité de l'économie mondiale. La question qui se posait alors était de savoir comment il serait possible pour l'élite mondiale de maintenir la gouvernabilité de 80% de l'humanité surnuméraire. La solution qui s'imposa au terme du débat fut celle prononcée par Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller de Jimmy Carter, sous le nom de « Tititainment ». Ce mot « valise » vient du mot anglais « entertainment », « divertissement », et de « tits », qui en argot américain signifie « les seins ». De quoi s'agit-il ? De définir un cocktail de divertissement abrutissant et d'alimentation suffisante permettant de maintenir de bonne humeur la population frustrée de la planète. Cette déclaration, pour cynique qu'elle fût, avait tout au moins le mérite de la franchise. J'ai tiré cette anecdote d'un livre de Jean-Claude Michéa publié en 1999, « L'enseignement de l'ignorance ». J'y reviendrai peut-être un jour dans une chronique autour de l'éducation, mais pour l'heure, je l'ai choisi pour vous parler de culture et de divertissement. Et cette citation, cet ouvrage m'a envoyé vers un autre ouvrage, un petit ouvrage que j'ai relu, un livre écrit en 1981. Oui, je vous fais de l'archéologie aujourd'hui, mais vous allez voir que c'est vraiment d'actualité. Donc un petit ouvrage écrit en 1981 et publié pour la première fois en France en 2001, un ouvrage intitulé « Culture de masse ou culture populaire » qui a été écrit par un auteur américain, Christopher Lash, un auteur assez peu connu. Dans l'avant-propos de cet ouvrage, nous retrouvons Jean-Claude Michéa, qui définit ainsi la culture de masse. Un ensemble d'œuvres, d'objets et d'attitudes conçus et fabriqués selon les lois de l'industrie et imposés aux hommes comme n'importe quelle marchandise. Et ce que dénonce Christopher Lash dans ce petit essai, c'est déjà, en 1981, l'aveuglement des partis de gauche, y compris dans leurs variantes les plus radicales, leur entêtement à ne pas vouloir voir, derrière cette culture de masse, l'ombre portée du capitalisme. À l'opposé à une culture élitiste ou bourgeoise, et à la confondre avec la culture populaire. La gauche a ainsi abandonné, au tournant des années 60, la critique de l'industrialisation de la culture. Alors nous devons à la revue Offensive, qui est une revue de sensibilité libertaire, qui a aujourd'hui disparu d'ailleurs, et aux éditions L'Échappée, l'édition de deux ouvrages qui ont le mérite de reprendre cette critique, sous le titre « Divertir pour dominer la culture de masse contre les peuples ». C'est d'ailleurs ce titre que j'ai choisi pour cette série de chroniques. Le premier tome de cet ouvrage est paru en 2010 et le second en 2019. Et j'ai décidé de consacrer plusieurs chroniques à ces ouvrages, car il me semble intéressant, bien que dérangeant, ou plutôt parce que dérangeant, de réfléchir à ces questions. Donc, dans les prochaines chroniques d'Antidote, je vais aborder tour à tour la question de la télévision, de la publicité, des séries, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, mais également du sport et du tourisme. Approcher cette question du divertissement aujourd'hui ne peut se faire sans parler de leur support principal, l'écran. L'écran, sous toutes ses formes, qui a envahi nos vies, est en effet le vecteur principal de cette culture de masse. C'est par lui que passe aujourd'hui la plus grande partie des discours, des modes, des injonctions, etc. J'y reviendrai donc assez longuement. Mais avant d'entrer dans plus de détails dans mes prochaines chroniques, je voudrais ici faire un peu d'histoire politique très rapide, car la culture de masse n'a pas attendu les écrans pour se développer. Elle a même été un ressort du développement du capitalisme. Dans l'avant-propos du livre « Culture de masse et, ou culture populaire » dont je viens de vous parler, Jean-Claude Michéa écrit « En imaginant les contours d'un monde dont l'économie serait devenue l'unique religion, les fondateurs de la doctrine capitaliste ne pouvaient que légitimer par avance le projet d'étendre à la culture et au divertissement eux-mêmes les principes implacables de la rationalité marchande. » C'est en Angleterre, berceau de l'industrialisation, que sont nés le sport et le tourisme, dont nous aurons l'occasion de parler. Mais ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont rapidement devenus le cœur du développement de la culture de masse en développant l'industrie culturelle à grande échelle. Si cette culture a d'abord concerné les classes bourgeoises, elle s'est étendue rapidement à partir du début du XXe siècle aux classes moyennes, puis aux classes populaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelée culture de masse. Alors, ce qui a beaucoup aidé à cette appropriation par les classes populaires de cette culture, ça a été le fameux compromis fordiste. En gros, contre une stabilisation de l'emploi et une hausse des salaires, eh bien, vous aurez à loisir toute la consommation possible de tout ce que vous voudriez. Voilà. Et ça, bien sûr, ça a contribué à l'acceptation ouvrière ou populaire d'une réforme du capitalisme, plutôt qu'à sa contestation radicale, qui comprenait une remise en cause des modes de vie que celui-ci imposait. Et donc, cette opposition réformiste du XXe siècle, on peut dire, de façon générale, a permis de faire accepter de façon massive le mode de vie imposé par le capitalisme. Et ceci s'est bien sûr encore plus accéléré avec l'accélération de la mise en place de la société de consommation à partir des années 60. Et c'est ce qui explique que la gauche se soit laissée aveugler et aujourd'hui, plus que jamais, se croit obligée, de peur d'être taxée d'élitiste ou de passéiste, de défendre la culture de masse, sans tenir compte de son pouvoir de domination et d'aliénation sur l'ensemble de la population et tout particulièrement sur les personnes les moins outillées pour y résister. Christopher Lasch soulignait dès 1981 que la confusion entre la démocratie et la libre circulation des biens de consommation est devenue si profonde que les critiques formulées contre cette industrialisation de la culture sont désormais automatiquement rejetées comme critiques de la démocratie elle-même. On a d'ailleurs parlé de démocratisation de la culture. La culture de masse en vient à être défendue au nom de l'idée qu'elle permet à chacun d'accéder à un éventail de choix jadis réservé aux riches. Ainsi, tous les dispositifs mis en place depuis plus d'un siècle maintenant, pour éroder les formes autonomes de culture populaire, dissoudre les liens sociaux et créer un monde artificiel d'individus isolés, transformés en consommateurs de produits toujours nouveaux, peuvent donc se développer au nom de la démocratie. Nous verrons qu'ils peuvent aussi se développer et être revendiqués sous d'autres prétextes fallacieux. L'idée que cette culture de masse pourrait être le signe d'une certaine subversion, ce que l'on a appelé la contre-culture, ou encore l'idée qu'il s'agirait d'une culture jeune allant à l'encontre d'une culture passéiste, ou bien sûr d'une culture accessible à tous à l'encontre d'une culture élitiste. C'est donc sur ces présupposés que je reviendrai dans mes prochaines chroniques. Avant de vous quitter, je vous rappelle ici les ouvrages dont j'ai parlé dans cette chronique et dont je vous conseille vivement la lecture. L'enseignement de l'ignorance de Jean-Claude Michéa, paru en 1999 aux éditions Climat. Culture de masse ou culture populaire de Christopher Lasch, écrit en 1981 et paru aux éditions Climat en 2001. Et enfin, Divertir pour dominer, la culture de masse contre les peuples, aux éditions L'Échappée, tome 1 paru en 2010 et tome 2 en 2019. Et c'est de ce dernier ouvrage dont je me servirai pour mes prochaines chroniques. Je vous dis à très bientôt.